Beaumarchais, un aventurier de la liberté. Par Éric Orsenna. Aujourd'hui, un fabricant de liberté.
Les chefs-d'œuvre ont une biographie propre. Celle du barbier serait joyeuse à raconter. Vous y découvririez, par exemple, une première rousine plus délurée que la nôtre, se plaignant crûment des fiascos de son vieux mari. Elle l'appelle « mort de la ceinture en bas ». Ou encore, avec un homme comme lui, « je ne sais par quel bout m'y prendre ». Fin de citation. Enfin, Beaumarchais se juge satisfait et vient lire sa pièce devant le comité de la Comédie française. Accueil enthousiaste, peu après, le censeur officiel donne son accord. Pour fêter ses bonnes nouvelles et le remercier de certains prêts d'argent, le duc de Chaulnes invite l'auteur chez sa maîtresse, Mademoiselle Ménard. Erreur fatale. Dans ses mémoires secrets, la Dubarry donne de l'actrice un savoureux portrait. Je la cite. Les plus grands seigneurs du château, les grands colliers de l'ordre, des fermiers généraux, aspiraient à l'honneur de se ruiner pour elle. Elle en avait déjà contenté une douzaine de ces deux espèces lorsque le duc de Chaulnes se mit sur les rangs. Il l'emporta sur ses rivaux, il fut heureux, il l'aurait été longtemps, sans la plus grande imprudence qu'un galant puisse faire, et qu'il fit. Fin de citation. Dans l'instant, la Ménard succombe au charme de Beaumarchais. Passion réciproque, fiévreuses étreintes dans tous les lieux possibles, même au jardin. Bientôt les amants sont dénoncés, tant rugit le duc que l'actrice craint pour sa vie, ce cocu est grand, costaud et violent. Le fidèle ami Sartine, maître des polices, conseille à la demoiselle de s'exiler un moment. Mais sitôt revenue de sa retraite, elle rouvre ses bras au dramaturge. Le duc, apprenant la nouvelle étape de son infortune, cherche partout son rival, hurlant qu'il va le tuer. Il finit par le trouver au Louvre, où son rival préside une session de son tribunal des chasses. Il l'empoigne, le sort de son audience et le conduit de force rue de Condé. « Vous y prendrez votre épée et nous allons nous battre !» Au domicile de Beaumarchais, le duc perd la raison. Sous les regards effarés de toute la maisonnée, dont le vieux père horloger, il casse, il vocifère, il se jette sur Pierre-Augustin, lui griffe le visage, il court en cuisine y chercher un couteau. Alerté par les domestiques, le commissaire Chenu parvient, non sans mal, à calmer le forcené. Comme on s'en doute, Paris ne parle plus bientôt que de cette affaire. Le théâtre a sauté de la scène pour continuer dans la rue. Quel amusement ! Beaumarchais ne sort plus sans deux pistolets chargés. La justice se doit d'intervenir. La cour compétente pour juger des contentieux entre gentilhommes est celle des maréchaux de France, aussi appelée « tribunal du point d'honneur ». Les deux adversaires y sont entendus. Dans un premier temps, suite au rapport accablant des témoins, le duc de Chaulnes est seul emprisonné, envoyé en cellule de dégrisement, le donjon de Vincennes. Mais il ne ferait pas beau voir un noble récent l'emporter sur un duc épère. À son tour, Beaumarchais, le 26 février 1773, reçoit sa lettre de cachet. Direction la prison du Fort-l'Évêque, derrière Saint-Germain-l'Auxerrois. Déjà en vif procès contre un puissant, le voici enfermé pour une deuxième affaire qu'il oppose à un autre sangbleu. L'argent et l'amour sont deux champs de bataille où la guerre est dangereuse. Beaumarchais arrêté. Pour un être tel que lui, en mouvement perpétuel, on ne peut imaginer torture plus terrible. Pendant ce temps, les comédiens français continuent de répéter le barbier, sans qu'on puisse leur donner une date pour la première. La vie vient d'écrire un nouvel acte qui aurait toute sa place dans la comédie de Séville. Du temps passe encore et le ciel finit par s'éclaircir. Le duc s'est calmé. Auréolé par ses missions mystérieuses dont personne ne connaît le détail, Beaumarchais est revenu en grâce. Le 23 février 1775, tout Paris se presse au palais des Tuileries, pour être précis, dans la salle des machines. La lumière s'éteint. Et recommence la malédiction d'Eugénie. Dès la fin du premier acte, on bâille. Au troisième, on commence à siffler. Les 60 heures qui suivent ce nouvel échec vont compter parmi les plus décisives de cette existence pourtant riche en épisodes. Ainsi va la vie, quelques moments clés où tout se concentre, s'accélère et se décide, et entre ces rapides, le flux des jours reprend son cours, tranquille. Notre passage sur Terre se résume à ces quelques points d'énergie. Imaginez une caméra posée sur l'épaule de Beaumarchais et ne l'ayant plus quittée tout au long de cette fin d'hiver. Imaginez la fumée, le nombre de chandelles brûlées, de plumes taillées, de papier noirci puis jeté. Imaginez le jour qui succède à la nuit, laquelle enchaîne sur un autre jour. Imaginez les acteurs qui se succèdent. Il paraît que vous réécrivez. Quand pensez-vous pouvoir nous donner nos scènes? S'il vous plaît, ne tardez pas, pensez à nous. N'oubliez pas que nous jouons demain. Imaginez la fureur de l'auteur pour chasser ses importuns. Imaginez sa fièvre qui fait taire la fatigue. Mais quel film ce serait! Documentaire comme il n'en est pas sur le retravail, cette dimension de la création essentielle et pourtant cachée car considérée comme honteuse, on préfère croire à l'inspiration, à la dictée de Dieu. Exercice moral expliquant par l'exemple la distinction entre vanité et orgueil. La première ne cesse de vous chanter votre supériorité sur le public, qui décidément n'est fait que d'âne. Le second ne cesse de vous convaincre que vous pouviez mieux faire, encore et toujours faire mieux. 3 jours durant, que personne ne le dérange. Beaumarchais mène sa guerre, il taille, il jette, il reprend, il déplace, il refond, il relance, il durcit. Toutes les scènes sont revues, toutes, raccourcies, tous les dialogues réveillés, toutes les facilités rayées. Plus tard, Beaumarchais racontera son combat. Je le cite, « Le dieu des cabales est irrité, dis-je au comédien, alors faisons la part au diable, et déchirant mon manuscrit, dieu des siffleurs, moucheurs, cracheurs, pousseurs et perturbateurs, il te faut du sang, bois mon 4e acte, et que ta fureur s'apaise. » Le dimanche 26, le rideau de la Comédie française se lève sur une pièce entièrement nouvelle, que le public acclame. Et le succès ne va plus se démentir. Les représentations s'enchaînent. Ultime consécration pour celui qui demeure encore blâmé, son barbier est invité à la cour le 14 mars. Et qui, lors d'une des représentations, jouera Rosine? Marie-Antoinette, la reine elle-même. Beaumarchais, d'ordinaire plus rapide, aura mis le temps. Il a 43 ans, sa jeunesse est passée. Mais cette fois, le but est atteint. Le voici enfin reconnu comme auteur. Et les clameurs des jaloux, les aigreurs des nouveaux confrères en sont autant de preuves. Une vie des plus agréables l'attend, celle d'écrivain pour le théâtre. Comparée à celle de romancier, morne et solitaire, l'agrément d'une vie d'écrivain de théâtre est sans pareil. René de Obaldia m'en donne chaque jour l'exemple. La moindre production de ses pièces est une fête. On le dorlote pour recueillir ses droits, on l'invite respectueusement à donner des avis, surtout on le consulte pour le choix des actrices. Quel plus doux moyen connaissez-vous de renouveler régulièrement vos relations? Cher si cher René, sans cette ronde de plaisir, aurais-tu l'œil toujours aussi vif et la jambe aussi légère, dépassé les 100 ans? Bref, un confort, ouvrez les bras à Beaumarchais, un confort délicieux à tous égards, celui de l'homme à la mode. Connaissant notre personnage, vous savez qu'il n'allait pas s'en contenter. Vite les bravos l'ennuient, il ne résiste pas longtemps au ricanement de son démon. Tu vieillis, Pierre-Augustin, tu t'amollis, tu gonfles du ventre, tu t'alanguis du reste. Le lendemain, le voit repartir sur les chemins de l'aventure. Les ouvrages de théâtre, monsieur, sont comme les enfants des femmes, conçus avec volupté, menés à terme avec fatigue, enfantés avec douleur et vivant rarement assez pour payer les parents de leurs soins. Ils coûtent plus de chagrin qu'ils ne donnent de plaisir. Suivez-les dans leur carrière. À peine ils voient le jour que, sous prétexte d'enflure, on leur applique les censeurs. Au lieu de jouer doucement avec eux, le cruel parterre les rudoie et les fait tomber. Souvent, en le berçant, le comédien les estropie. Les perdez-vous un instant de vue, on les retrouve hélas, traînant partout, mais dépenaillés, défigurés, rongés d'extraits et couverts de critiques. Échappés à tant de maux, s'ils brillent un moment dans le monde, le plus grand de tous les atteint, le mortel oubli les tue. Ils meurent, et replongés au néant, les voilà perdus à jamais dans l'immensité des livres. Préface au Barbier de Séville. Le rideau se lève sur le nouveau monde. Une pièce dont le sujet, géant, va changer des drames de l'amour et des affaires de famille. Cette fois, il s'agit de rien moins que de la naissance d'une nation appelée à devenir la plus puissante de la planète. Pour faire vivre un argument d'une telle ampleur, il faut des personnages hors du commun. Sauf par l'absence d'une femme, vous n'allez pas être déçu. Voici, par ordre d'entrée en scène, un armateur débutant, un pléonasme, je veux dire un ministre hypocrite, une erreur de casting, je veux parler du roi Louis XVI, un quaker dompteur de foudre et un lord diplomate tourné en bourrique. Souvent, les guerres engendrent des sociétés nouvelles. Et les nations victorieuses n'échappent pas plus au bouleversement que les nations vaincues. Revoici la guerre de 7 ans qui avait déchiré l'Europe. L'Angleterre s'en était sortie grande triomphatrice, mais ruinée. Pour reconstituer ses finances, elle avait multiplié les taxes. C'est ainsi que l'idée très mauvaise, lui était venue de frapper durement ses 13 territoires d'Amérique du Nord. Les colons protestèrent. La seule légitimité de l'impôt, répétait-il, c'est le vote. No taxation without representation. Et comme Londres leur refusait le moindre député à son parlement de Westminster, bref, le 5 mars 1770 à Boston, les caisses du thé officielles livrées par la Compagnie des Indes orientales sont jetées à la mer. La révolte commence et prend vite de l'ampleur. Jusqu'à la déclaration d'indépendance, le 4 juillet 1776 à Philadelphie. Les États-Unis d'Amérique sont fils du déchirement de l'Europe. À Madrid déjà, Beaumarchais avait rêvé d'Amérique, comme d'un paradis possible pour la liberté. Toute la liberté, celle des opinions comme celle des mœurs et celle des affaires. Mais que la vie serait plus belle sans église, sans vieille noblesse et sans cet écheveau de règles qui paralyse l'initiative. Débarrassé des minauderies de Mademoiselle Déon, Beaumarchais voit passer la noble cause des insurgents. Il sait qu'elle est pour lui et que, profitant du désordre, son meilleur allié, il va pouvoir y donner sa pleine mesure. Sa réhabilitation, juridique et financière, est en bonne voie. Cette bataille, lui permettant de se rapprocher du roi, ne peut que l'accélérer. À 45 ans, il a déjà vécu plus de 10 existences. Mais ne serait-il pas temps de dresser un premier bilan? Il a tout connu. Et que restera-t-il de lui, lui qui a perdu ses 2 enfants? L'habileté, même extrême, ne satisfait pas l'estime de soi. Pas plus qu'un succès, même éclatant au théâtre. Un peu de grandeur ne ferait pas de mal au tableau. Et si en prime, chemin faisant, il était loisible de se faire quelque argent, bref, Beaumarchais repart à l'attaque, à sa manière, qui est d'abord celle d'un avocat pourvu de la plus brillante, synthétique et persuasive des plumes. Chaque jour, il écrit à Versailles. Depuis l'école, nous savons que Louis XVI incarna, jusqu'à la tragédie, la différence entre les qualités humaines et celles qu'il faut pour gouverner. Pauvre Bourbon, malheureux monarque, à l'inverse de notre héros, il est né au mauvais endroit, au mauvais moment, dans la mauvaise famille. Et il monte sur le trône au plus mauvais âge, bien trop tendre, 20 ans. Un dieu moins cruel l'aurait créé serrurier ou maître horloger rue Saint-Denis, comme M. Caron. Son amour de la précision et ses manières douces auraient fait merveille dans une boutique. Mais lui le timide, lui le paisible, il se retrouve à devoir décider s'il faut ou non lançait son pays contre la plus puissante des nations. Plus près de nous, on se rappelle Léon Blum, le plus velouté des humanistes, par ailleurs président du Conseil, gémissant de ne pouvoir engager l'armée française en Espagne pour y contrer les hordes alliées aux nazis. Vergennes, en bon ministre des Affaires étrangères, choisit de ne pas choisir. Pour user d'une tactique tout à fait beaumarchaise, il va garder tous ses fers au feu. En d'autres termes, il va continuer de sourire à Londres en la frappant dans le dos. Pour mener efficacement ce double jeu, qui mieux trouver que l'homme d'affaires accompli, devenu depuis peu agent secret? Voici donc Pierre Augustin, ajoutant un nouveau métier à sa liste déjà longue, armateur. N'ayant rien oublié des leçons de Paris Duvernay, son professeur de finances, il crée sans tarder une société qu'il baptise d'un nom particulièrement opaque, qui pourrait deviner les activités réelles de Roderig Hortales et compagnie, 647 rue Vieille du Temple, et qui pourrait croire aux capacités de cette entreprise toute neuve. En toute discrétion, le Trésor français vient de lui transférer un premier million, bientôt rejoint par la même somme reçue des Espagnols. Acheter des armes n'est pas difficile, mais où trouver des bateaux pour transporter ses fusils, ses canons, ses uniformes de l'autre côté de l'Atlantique? Comme aucun pays n'est assez fou pour aller narguer une marine anglaise omniprésente et particulièrement vigilante aux abords de l'Amérique, la seule solution est de confier le risque à une société privée. Roderig Hortales acquiert donc des bateaux. Sa flotte en comprendra 40. Beaumarchais se donne à corps perdu, avec une énergie néophyte et brouillonne qui ne trompe pas l'ambassadeur d'Angleterre, Lord Stormont, à qui l'on fait régulièrement rapport de cette activité frénétique. Un jour, le nouvel armateur est au Havre, 10 jours plus tard on le signale à Marseille, une semaine il lance le Mercure, la quinzaine suivante c'est le Zéphyr, lequel précédera l'Hippopotame. Pendant que dans cette fausse clandestinité, notre ami se démène, Paris se prend de passion pour l'envoyé spécial des insurgents américains, Benjamin Franklin. Il faut dire que l'existence de ce monsieur de 70 ans dépasse en diversité et en éclat celle de Beaumarchais. Fils d'un marchand de chandelles, il devient imprimeur. Toujours soucieux de ses contemporains, il va leur ouvrir la porte des livres en créant les premières bibliothèques par abonnement. Pour lutter contre la malédiction récurrente des incendies, il devient pompier, avant de se voir confier la responsabilité de la lutte contre le feu à Philadelphie. Ses talents d'organisateur ayant été repérés, il est nommé maître des postes. Enfin, grâce à M. Franklin, le courrier arrive. Dans ses temps libres, il apprend la physique. Son invention du paratonnerre le rend célèbre. Avec tous les savants européens, dont Buffon, il entretient une correspondance fournie. C'est donc une légende qui débarque. Après, dit-on, une épouvantable traversée. Pour ajouter, si besoin, quelques piments à l'arrivant, on le sait, franc-maçon. Une appartenance excitante pour ceux qui ne le sont pas et une immédiate fraternité pour ceux qui en sont. Bref, tout le monde veut le voir, d'autant qu'on dit ses manières charmantes et son accoutrement bizarre. Vers Passy, en son hôtel particulier du 66 rue Raynouard, la foule accourt. Dès leur déclaration d'indépendance, les États-Unis tout neufs se sont dotés d'une constitution co-rédigée par Franklin. Et c'est le tout nouveau Congrès qui a mandaté l'imprimeur, bibliothécaire, pompier, postier. Sa mission est claire, profiter de sa notoriété et du respect qui l'entoure pour arracher le soutien du roi de France. Un soutien officiel, en lieu et place des petites actions honteuses apportées de temps à autre. Drôle de situation quand on y songe. Le dompteur de foudre chargé de déclencher le tonnerre des armées françaises. Mais on a beau ressentir pour quelqu'un la plus vive des sympathies, cette émotion n'est pas suffisante pour décider de s'affronter ouvertement au lion anglais. Tandis que Stormont menace, tandis que Franklin, malgré son âge, piaffe, pendant que Louis XVI, comme à son habitude, tergiverse, pendant que Vergennes louvoie, Beaumarchais se ruine. Les termes de l'accord avec les Américains étaient simples. Comme vous n'avez pas d'argent, vous me paierez quand vous pourrez, et en nature, du riz, du tabac, des céréales. Dans son enthousiasme militant, l'armateur n'avait pas jugé nécessaire de rédiger le moindre contrat. triomphant de 1000 difficultés, il avait respecté sa partie et les armes avaient été livrées outre-Atlantique. Mais il attendait toujours les contreparties. Des contreparties qui ne vinrent jamais, malgré les innombrables rappels. Le 6 février 1778 est signé avec les insurgents un premier accord, certes seulement commercial, mais enfin un accord officiel. Et le 13 mars de la même année, la France reconnaît l'indépendance des États-Unis. Pays endetté perd la mémoire. Les années passent et de moins en moins de membres du Congrès se souviennent d'un bateau baptisé Mercure et le Zéphyr. Vous pensez bien que nous nous rappellerions un nom aussi ridicule. En matière de mauvaise foi, l'imagination et le culot n'ont pas de limite. Et l'histoire se montrera injuste, célébrant la campagne de Lafayette et oubliant l'action de Beaumarchais. Les ennemis de nos adversaires sont plus d'à moitié nos amis. Beaumarchais, correspondance secrète. J'ai toujours éprouvé que les secrets des gouvernements étaient plus aisés à pénétrer que ceux des particuliers. Beaumarchais, dans une lettre à Vergennes. Cet homme pressé n'oublie jamais la continuité. Il donne à chaque allure sa part. Une part pour le temps court du présent et une part pour les longues durées. L'horloger qu'il est toujours resté, on dirait qu'il s'est inventé une montre, mais une montre à plusieurs cadrans. Un cadran où cavalent les secondes et un cadran où s'étirent les heures, voire les années. Une fois parti en croisade, Beaumarchais n'abandonne jamais. Si Corneille, malgré l'éclatant succès de ses pièces, avait toujours vécu dans le dénuement, et si La Fontaine, pourtant partout récitée, avait dépendu pour vivre de la générosité de ses amis, c'est pour une seule et même raison, ils avaient été volés. Volé le premier par les comédiens et volé le second par les éditeurs. Et d'ailleurs, pourquoi rémunérer les auteurs? Ne devraient-ils pas se contenter de la gloire d'être joués ou imprimés? Il faut qu'ils choisissent, artistes ou boutiquiers, libres ou mercenaires. De même qu'un noble déroge s'il travaille, de même un auteur trahit la hauteur de sa mission s'il lui prend l'envie vulgaire, de se faire payer. 10 ans avant que n'éclate la Révolution, la situation n'a guère changé depuis le siècle précédent. Les auteurs dramatiques n'osent bouger un cil, la corporation des comédiens les tient. Au moindre haussement de ton, à la plus timide revendication, leurs pièces sont retirées et leurs noms portés sur une liste noire. Les versements de droits sont minimes et aléatoires. C'est aux moins professionnels de leurs confrères qu'ils vont devoir leur salut, aux moins intéressés pécuniairement par la guerre qu'il va mener. Beaumarchais est riche, on le lui reproche assez. Il tire ses très larges revenus d'activités qui n'ont rien à voir avec le théâtre. L'affairiste, en l'espèce, ne se bat que pour un principe. Il avait lancé son offensive dès 1777. Le barbier de Séville venant d'atteindre sa 32e représentation, son auteur se juge le droit de demander à la Comédie-Française le compte exact de ce qui lui revient. Écoutons Maurice Levers raconter le début de la guerre. « Ce que je réclame à la Comédie, beaucoup plus que l'argent, c'est une cote bien taillée qui puisse servir de modèle à tous les décomptes futurs et ramener la paix entre les acteurs et les auteurs. »« Je vois bien, » répond l'envoyé de la corporation, « que vous voulez ouvrir une querelle avec la Comédie. Mais au contraire, monsieur, et plaide au Dieu des vers que je puisse les terminer toutes à l'avantage égal des parties. » Comme après 15 jours d'attente, la cote bien taillée n'arrive pas, Beaumarchais écrit à la Comédie l'un de ses mémoires qu'il affectionne. Je le cite, « Je me suis permis de vous proposer une méthode comptable à la portée des moindres liquidateurs. » Les comédiens s'affolent, s'énervent, se choisissent des avocats. La guerre commence. Le 27 juin 1777, tous les auteurs de théâtre reçoivent de Beaumarchais une invitation à dîner ainsi rédigée. « Une des choses qui me paraît le plus s'opposer au progrès des lettres, et la multitude des dégoûts dont les auteurs dramatiques sont abreuvés au théâtre français, parmi lesquels celui de voir leurs intérêts toujours compromis dans la rédaction des comptes n'est pas le moins grave à mes yeux. En conséquence, monsieur, si vous voulez me faire l'honneur d'agréer ma soupe, jeudi prochain. » Louable initiative, mais des l'œuf voué à l'échec. tout auteur se croit seul au monde ou supérieur. Dans tous les cas, l'auteur jalouse et la plupart du temps déteste. Aucune solidarité ne peut venir de cet insupportable corps. Qu'importe le fiasco de ce repas, comme à son habitude, Beaumarchais prend à témoin la Nation. On ne parle bientôt plus que de cette insurrection des auteurs. Et le 3 juillet, se tiennent dans le Marais, à l'hôtel des ambassadeurs de Hollande, pour être précis, 47 rue Vieille du Temple, les états généraux de l'art dramatique. Les écrivains sont venus 23 pour créer la première société chargée de défendre les créateurs. Ils la baptiseront Bureau de législation dramatique, qui deviendra plus tard SACD, Société des auteurs et compositeurs dramatiques. Elle s'installera rue Ballu, dans le 9e arrondissement de Paris. Elle n'a pas oublié celui qui l'a fit naître, son buste veille sur la grande salle du Conseil. Pour l'heure, rien n'est acquis. Les comédiens n'entendent pas céder. Ils sont riches et pour cause. Ils sont unis, ils sont déterminés, ils sont défendus par les meilleurs avocats et soutenus par une armée de femmes charmantes qui excellent dans tous les arts et qui plaident à merveille leur cause dans des moments où le juge le plus intègre n'a rien à leur refuser. Et là, je cite Gudin de la Brénellerie. Hélas, les auteurs auront commencé à se déchirer. Fini la belle unanimité du 3 juillet. Sur tout et sur rien, on pinaille. Sans cesse, on soupçonne l'autre de profiter du combat pour se mettre en avant. Pas d'union possible au royaume de la vanité. Pas de solidarité concevable lorsqu'en chaque camarade, on voit d'abord un rival. Ils parviennent tout de même à décider une grève. Aucune pièce ne sera remise aux comédiens tant qu'ils n'accepteront pas de clarifier et de régulariser leurs comptes. Bien sûr, des traîtres se présentent, trop heureux de se voir enfin jouer. Les négociations s'éternisent, Beaumarchais s'y bat presque seul, avec l'énergie que nous lui connaissons, inépuisable et inventive, répliquant à chaque attaque, ne cédant sur rien d'essentiel, mais toujours prête au dialogue. Pas plus fourbe et rapace que les comédiens de ce temps-là. À peine ont-ils d'une main signé un accord que de l'autre ils rédigent un alinéa revenant à l'ancien partage de la recette pour le plus grand bien de leurs intérêts. À peine s'est-on mis d'accord à Paris que les avocats des comédiens proclament que la province n'est pas concernée. Il ne reste plus qu'une ressource à Beaumarchais, en appeler à Louis XVI. La première de toutes les grâces, sire, n'est-elle pas d'assurer aux auteurs dramatiques par une loi la propriété de leurs œuvres et le juste fruit de leurs travaux ? Occupé par bien d'autres affaires, le roi ne décidera pas. Survient la Révolution. On débat de tout passionnément et notamment de notre affaire. Un comité de constitution est chargé d'un rapport. Sa conclusion ne peut être plus claire. Je la cite, « La plus sacrée, la plus inattaquable et la plus personnelle des propriétés est l'ouvrage de la pensée d'un écrivain. » En sa séance du 13 janvier 1791, l'Assemblée nationale adopte un décret abolissant le privilège exclusif de la Comédie française. La légitimité du droit d'auteur est reconnue et sa mise en œuvre organisée. Encore faut-il faire respecter la loi. Contre la mauvaise foi alliée à la mauvaise volonté, la bataille est quotidienne, épuisante et doit sans cesse recommencer. D'autant que pullule autour de ce genre de dossier une engeance particulière de juristes rémunérés pour leur talent à faire obstacle au droit. Lobby pour empêcher le vote d'un texte juste, avocat pour en empêcher l'application, Paris 1791 ressemble à Bruxelles 2019. Eh oui! La Comédie française préfigurait Google, une plateforme s'enrichissant à diffuser des contenus chapardés à leurs créateurs. Et comment ne pas comprendre, alors comme aujourd'hui, que rémunérer justement les auteurs est le seul moyen de leur permettre, hors du hasard d'une fortune personnelle, hors de l'insupportable contrainte du mécénat, la liberté.
C'était Beaumarchais, un aventurier de la liberté, par Éric Orsenna. À la technique, Alain Joubert. Réalisation, Rafik Zénine.